Je suis très attaché maladivement au monde industriel. J'aime les objets neufs et les choses brillantes. L'obsolescence programmée, si elle existe bien, porte pour moi des promesses de bonheur. Une nouvelle visite au Darty, un tambour plus grand, un panneau de commande plus lumineux, la bonne odeur des choses sorties d'usine. Il m'est arrivé de sourire en voyant mon iPhone tomber sur son écran et de me réveiller la nuit pour comparer l'efficacité des groupes Shimano. Qui regarde d'ailleurs le Tour de France pour la beauté des paysages? Ce qu'on regarde vraiment, ce sont les accessoires, les belles lunettes blanches du vainqueur colombien, celles de Greg LeMond, plus belles qu'un arc-en-ciel, dont il me faudra bien acheter un jour une réédition. Mais surtout ce qu'on fixe, jusqu'à l'extase mécanique, ce sont les pignons parfaitement usinés des cassettes arrière. Un vélo, c'est une vue en éclaté d'une montre de luxe, un paradis dentelé d'exactitude. Shimano, qui règne sur ce marché, et peut-être d'ailleurs tant ici la passion supplante les lois normales de l'économie, le seul exemple connu d'un monopole fonctionnel. Même s'il fait presque 30 fois le chiffre d'affaires de l'italien Campagnolo, son lointain challenger, la délicate multinationale japonaise demeure, par dévotion plutôt que par nécessité économique, inlassablement innovatrice et génialement schumpeterienne. À chaque saison qui passe, les coureurs cyclistes sentent sous leurs doigts une douceur inédite et loin du lieu critique où la chaîne saute d'un plateau à l'autre, comme un fleuve soudain rompu par une plaque tectonique, ils déambulent entre les tendres courbes de niveau des plateaux concentriques. Mais le principe du dérailleur a peut-être quelque chose d'imparfait et de brusque. On imagine depuis presque un siècle de le remplacer en vain par des engrenages planétaires. Tous les deux ou trois ans, une start-up vient défier Shimano en tentant d'assembler le Graal d'une transmission continue qui soit à la fois fiable et légère. Ainsi, l'année dernière, du danois Ceramic Speed et de sa transmission par un arbre en carbone et de sa cassette plate qui remplace le dérailleur par le déplacement longitudinal d'une roue dentée sur un disque ajouré. J'ai eu le privilège cet été de tester une transmission de ce type, non pas sur un prototype de vélo, mais sur un bac à serpillière doté d'une astucieuse et soreuse centrifuge. Une pédale actionnait un tambour par le biais de deux roues dentées perpendiculaires et j'avais beau l'actionner vicieusement pour éprouver la fiabilité de ce type de transmission en y mettant toute mon énergie, toute la rage nippone d'un ingénieur de Shimano jusqu'à atteindre le séchage complet de la serpillière en microfibre, jamais je n'ai réussi à gripper le mécanisme ou à faire se désengrener ses pignons. L'objet était bien la merveille promise sur son chatoyant emballage. J'étais sans doute déjà sensibilisé par cette expérience à la beauté des ustensiles de ménage quand j'ai découvert sur Instagram le travail de l'artiste Mikael Johansson, des cubes presque parfaits composés d'un assemblage disparate d'objets en plastique, dont précisément des têtes de balais à poils bleus. C'est ready-made avec quelque chose de fascinant. Le monde industriel y acquiert une sorte de nécessité nouvelle. Il apparaît presque qu'Unilever et Procter & Gamble, Ikea et Danone ont calibré leurs machines pour aboutir in fine à ce genre d'objets terminaux emboîtables et stériles. Jamais le caractère fétiche de la marchandise n'avait été mieux montré. Tout cela n'avait jamais eu aucune valeur d'usage, sinon par accident. C'était dans ces totems cubiques que se résolvait enfin le grand mystère des choses. C'était comme cela que tout devait finir, impeccablement rangé, harmonisé par couleur, idéalement manipulable et monté jusqu'au ciel sur les fourches d'un Manitou ou par une main immense et à la délicatesse surnaturelle, à la fois main de Dieu et main invisible du marché, comme celle qui vient de sortir de terre derrière le petit palais, la main humaine du bouquet de Jeff Koons, autour de laquelle des ouvriers, plus chanceux que ceux des tableaux de Fernand Léger, évoluent sur une nacelle élévatrice pour y accrocher de grandes tulipes à la finition si belle qu'elles surpasseront en perfection les véhicules de luxe qui glissent sur les Champs-Élysées voisins, car c'est cela profondément que nous aimons chez Jeff Koons. Ce sont les premières œuvres d'art qui sont mieux finies que les objets industriels. Koons, qui autrefois exposa des aspirateurs aujourd'hui disparus et qui n'existent plus que dans ses œuvres, comme il ne restera plus un jour du monde industriel et de ses prouesses logistiques que les assemblages énigmatiques de Mikael Johansson, le Noé du plastique.